Vous écoutez, on lit pour vous.
De la soutane au maillot d'arbitre, un texte de Fanny Lévesque, paru le 2 septembre 2025 dans la presse. Cette île. De la musique africaine résonne dans un haut-parleur portatif. L'ambiance est à la fête, autour du terrain de soccer, situé à un jet de pierre du cégep. C'est jour de finale. Le Cameroun et le Sénégal s'affrontent à cette île, leur terre d'accueil. Aboulou, innocent, prend un air sérieux en enfilant son maillot vert fluo. Le sifflet au cou, il réunit les joueurs et leur adresse quelques instructions. Soyez respectueux envers l'autre, misez sur l'équité, la fraternité. Le discours d'avant-match prend presque des airs d'une homélie. Pas surprenant, l'arbitre est aussi prêtre. Certaines personnes me disent que je ne suis pas comme les autres, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire, lance le père Aboulou, le ton rieur. Le sourire illumine d'ailleurs son visage lorsque nous le rencontrons avant cette grand-messe du ballon rond. Aboulou innocent, mais pas dans le sens québécois, précise-t-il, en prenant soin d'épeler son nom peu commun sur la côte nord. Il pouffe de rire. À la demande du diocèse de Bécomo, le Nigérian de la Congrégation du Saint-Esprit a été envoyé à cette île comme missionnaire pour donner un coup de main. Il a débarqué à Montréal en plein mois de janvier en 2024. Il y a eu le choc de la neige, exprime celui qui n'avait alors jamais mis les pieds au pays. À son arrivée, il sait encore moins où peut se trouver cette île. J'ai imaginé beaucoup de choses. Cette île. Est-ce qu'on peut y accéder que par bateau? J'ai pensé qu'il n'y avait pas de route, confie-t-il avec candeur. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire des recherches sur le lieu où je dois travailler. J'ai fait 11 ans d'études pour être formé comme missionnaire. Nous sommes disponibles pour aller où on nous demande, relativise le père Aboulou. Or, une divine surprise l'attendait à destination, la présence d'une communauté africaine en forte expansion à l'heure où l'immigration explose avec la pénurie de main-d'œuvre. « Je ne m'attendais pas à trouver des Africains », s'exclame-t-il. Chaque semaine, le nombre d'immigrants africains augmente. « C'est une nouvelle pour moi », ajoute le missionnaire spiritain. Le sport pour rassembler. Cela se constate autour de lui alors qu'il arbitre un match de la Jeune Ligue interculturelle de soccer de cette île. Créée il y a 6 mois à peine, elle est constituée de 6 équipes masculines regroupées selon des pays africains. Les femmes ne sont pas en reste et occupent le terrain voisin. Les enfants jouent tout près, tandis que les bébés dorment dans les poussettes malgré la foule bruyante. Le sport nous amène à nous intégrer. Le sport n'a pas de frontières, c'est rassembleur, relate le missionnaire. La presse rapportait dimanche que les travailleurs étrangers temporaires redonnent un élan à l'économie de cette île au moment où la côte nord se vide. Une dévitalisation qui se vit sans surprise sur les bancs d'église, rapporte le père Aboulou. La réalité est un peu différente que celle de l'Afrique. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent à l'église, pas beaucoup de jeunes non plus. L'église ici est beaucoup caractérisée par la présence des aînés, constate-t-il. Les enfants, souvent, ils ne sont plus ici, ils sont partis. Il y a beaucoup de gens qui quittent pour les grandes villes. Alors les grands-parents se retrouvent seuls. Ça fait partie de mon devoir de les soutenir, relate le missionnaire, qui se déplacent dans les CHSLD et les résidences pour aînés. Sur le terrain synthétique, l'intensité monte d'un cran dès les premières minutes de l'affrontement. C'est une toute autre cérémonie que guide le père Awoulou en ce samedi d'été. Les esprits s'échauffent, des joueurs se chamaillent, contestent ses décisions. L'arbitre intervient chaque fois avec calme. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'arrive avec un bagage, une maîtrise de soi, illustre-t-il. Des joueurs le remarquent et viennent le remercier à la fin du match. Certains s'excusent même d'avoir blasphémé sous le coup de l'émotion. Le principal intéressé n'est pas offensé. Il voit son talent comme un don du Seigneur pour le rapprocher de sa communauté d'accueil. Reflet de notre société. Même si ici, sa double occupation surprend, il n'en est rien au Nigeria, assure-t-il. C'est même sa congrégation qui a payé pour sa formation d'arbitre professionnel. L'Église nous encourage à aller vers les gens, explique le père Awoulou. Une implication remarquée par le diocèse de Bekomo. Père Awoulou s'implique non seulement dans sa paroisse, mais il s'implique avec la communauté africaine à cette île. C'est quelque chose de vraiment intéressant, souligne l'évêque de Bekomo, le père Pierre Charland. Le diocèse qui couvre l'ensemble du territoire de la Côte-Nord se tourne de plus en plus vers des prêtres étrangers pour combler les besoins dans les églises de la région. Parce que la pénurie de main-d'œuvre touche aussi la prêtrise, indique le père Charland. Des 23 prêtres du diocèse de Bekomo, 9 proviennent de l'étranger et surtout de l'Afrique. C'est une réalité qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, relate l'évêque. C'est vraiment riche et c'est le reflet du changement qu'on a dans notre société. De retour sur la surface de jeu, le match est serré au possible et se décide dans les derniers instants. Le Cameroun célèbre la victoire, tandis que le Sénégal encaisse la défaite. Le père Awoulou restera à cette île jusqu'à la fin de son premier mandat de 6 ans, en 2031. Et pour la suite, aimerait-il demeurer dans la région? Il ne s'agit pas de dire si j'aime la ville presbytérale, corrige-t-il. C'est l'Esprit-Saint qui décide. Je n'ai pas d'autre ambition que de servir. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il faut s'engager jusqu'au bout. C'était, de la soutane au maillot d'arbitre, un texte de Fanny Lévesque, paru le 2 septembre 2025 dans La Presse.
Le bois urbain du Grand Montréal, un espace changeant et ambigu. Un texte de Gilles Gaston-Sénécal, paru à l'été 2023 dans le numéro 154 de la revue Cap au Diamant. Il est entendu que la forêt urbaine offre une gamme de bienfaits environnementaux, sociaux et économiques, à la fois facteurs de qualité de vie des citadins et de biodiversité. Les raisons de sa conservation ont évolué au cours du temps. Ainsi, la mise en valeur de la forêt urbaine répond à des besoins sociaux, de même qu'aux soucis de conservation et d'embellissement. À Montréal, elle est un enjeu pour la variété d'arbres et de plantes qui la constituent, bien qu'elle soit distribuée en fragments éparses que divers acteurs ont tenté de préserver, pas toujours avec succès. Elle forme un écosystème complexe et fragmenté qui régule tant bien que mal la qualité de l'air et de l'eau, abrite la faune et protège les sols contre l'érosion. Le couvert forestier a cependant été altéré par les vagues successives de l'expansion urbaine et la transformation des milieux. En contrepartie, des efforts de conservation ont été tenus depuis la fin du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Des premiers grands parcs, dont celui du Mont-Royal, jusqu'au parc nature et aire de conservation des bois urbains, ont été préservés et offerts aux citadins pour différentes activités de plein air, d'observation et de loisirs. L'Observatoire métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal fait état dans un document récent de la protection de 10% de son territoire, incluant des milieux aquatiques. Il demeure que la carte qui accompagne le document laisse une curieuse impression de conservation en pointillé, puisqu'elle relie des fragments séparés les uns des autres. On comprend que nombreuses sont les superficies boisées de la région de Montréal, de différentes tailles et sous statuts divers, laissées sans protection, laissées au bon vouloir des promoteurs et des administrations locales ou nationales, et que les mouvements citoyens cherchent à préserver. Le stress permanent dont font l'objet ces bois résiduels, tout comme les zones humides, font en sorte que les citoyens les documentent, les occupent et les transforment en parcs informels, souvent en but devant des projets de développement indésirables. Il faut compter ainsi sur le travail d'organisations communautaires et de groupes de citoyens pour la préservation, la surveillance, l'entretien et la restauration de ces espaces verts résiduels et pourtant essentiels. Jalons et repères de la conservation de forêts urbaines. Les grands parcs et les bois urbains sont le fait de deux héritages anciens. Les grands domaines royaux et féodaux sont en partie conservés et récupérés dans les villes européennes au 19e siècle comme sites d'agrément des quartiers bourgeois. Leur intégration au Paris haussmannien témoigne de l'importance des bois, des allées arborées, des parcs dans l'organisation générale de la ville bourgeoise. Par mimétisme, les grands bourgeois montréalais s'en sont inspirés pour préserver la montagne adossée à leur habitat, le 1000 carrés doré. Le projet du parc du Mont-Royal était lancé. L'aménagement urbain de Montréal à cette époque est marqué par l'héritage victorien, les squares élégants et la rue spectacle. Ceux-ci confèrent à la ville bourgeoise des lieux de rassemblement et de socialisation. Il revient à Frederick Law Olmsted, 1822-1903, figure marquante du City Beautiful Movement, célèbre pour son plan de Central Park à New York, de réaliser l'esquisse du parc du Mont-Royal à Montréal. Il faut rappeler qu'Olmsted s'est inspiré des exemples européens à la suite de son voyage initiatique sur le vieux continent pour établir son approche en architecture du paysage qu'il applique aux villes américaines. La création du parc du Mont-Royal imprime sur le développement urbain du pourtour de la montagne une marque indélébile. Elle assure la valorisation et l'exceptionnalité des ensembles résidentiels bourgeois qui se détachent du centre-ville tout en demeurant établis à proximité. Chasse gardée d'une élite déterminée à afficher son statut, notamment par la pratique de la chasse à cour au pied de la montagne, la conservation de la forêt de la montagne est ainsi un acte d'appropriation par un groupe privilégié, bien que ce soit l'administration municipale qui en assume les coûts. Le plan d'Olmsted 1874 pour le Mont-Royal propose de profiter de ce site exceptionnel, de sa topographie, de son cadre pittoresque, de son caractère naturel, afin de l'ouvrir sur la ville et de la rendre accessible à l'ensemble de la population, dont les ouvriers. Olmsted propose une vision assez particulière qu'on ne peut pas qualifier d'environnementaliste ou d'écosystémique, mais plutôt de paysagère. Son chemin vers le sommet est ponctué de différents paysages conceptualisés ou images de la nature sans référence directe à la forêt indigène. L'accessibilité au site a aussi pour but de tempérer les excès de l'urbanisation, d'offrir un lieu détaché de la densité et des bruits de la ville industrielle. De la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1940, l'ensemble de l'île de Montréal demeure une vaste friche agricole, incluant des vergers et des bois, accaparés par les spéculateurs et les projets de protection de bois urbains sont à peu près inexistants. nous retenons quelques jalons de la planification des grands parcs et des bois urbains à Montréal, sachant que ces influences imprègnent chacune des périodes. La région de Montréal a réinvesti les approches de ses écoles d'architecture, du paysage et d'urbanisme en questionnant son rapport à la nature. Il faut tout de même reconnaître que bien des mesures et des formes concrètes d'aménagement, comme des cités-jardins ou des grands parcs, ne sont finalement que des ersatz, des modèles développés en Europe ou aux États-Unis. Les banlieues pavillonnaires de la région montréalaise ne sont ni pensées ni planifiées en fonction de la conservation des bois urbains. Les grands parcs forêts qu'on y trouve, à l'exception de quelques grands parcs urbains, sont des figures imposées récemment par le gouvernement provincial et occupent une faible proportion du territoire métropolitain. Ce sont finalement les pressions en faveur de l'accès aux activités de plein air qui a permis la constitution d'un réseau métropolitain. Vous écoutez « Le bois urbain du Grand Montréal, un espèce changeant et ambigu », un texte de Gilles Gaston Sénécal, paru à l'été 2023 dans le numéro 154 de la revue Cap au Diamant. Il en résulte une distribution inégale des espaces verts de qualité, ce qui préoccupe les différentes administrations publiques qui entendent corriger l'image d'une ville ségrégée entre quartiers bourgeois verts à l'ouest adossés à de grands parcs et quartiers populaires à l'est en pénurie de végétation. Il convient de rappeler que dès les années 1960, le service d'urbanisme de la ville de Montréal propose un vaste dessin pour l'ensemble de la région métropolitaine sous le nom d'Horizon 2000. Ce plan prévoit une ville dense, couverte d'autoroutes, mais offrant aux familles des parcs accessibles pour les activités de plein air. Les grands parcs urbains sont un complément au réseau autoroutier alors en phase de développement. Plus tard, le projet Archipel 1979-1986 tente d'articuler les réseaux bleus et verts métropolitains à des fins récréo-touristiques et de protection de la nature. Resté inachevé, le projet est repris par la Ville de Montréal à l'échelle de l'île sous la forme d'un réseau vert chargé de relier les différents fragments d'espaces verts, quels qu'en soient les statuts. Avec la création de la communauté urbaine de Montréal, confinée à l'île de Montréal, la recension des bois urbains de qualité écologique permet d'envisager un réseau de parcs nature aux fins de conservation de la nature, tout de même plus ancré à l'ouest. Parmi ceux-ci, le bois de Saraguay en est une illustration remarquable pour son écosystème forestier à haute valeur. Il est classé forêt patrimoniale en 1981 en raison de la présence de plusieurs essences d'arbres centenaires. Ouvert au public en 2016, il compte 1,8 km de sentiers. L'approche métropolitaine s'impose à nouveau avec la création de la communauté urbaine de Montréal en 2001 et son plan métropolitain d'aménagement et de développement, PMAD. En 2011. On y souhaite raccorder les parcs nationaux métropolitains, notamment ceux des îles de Boucherville, d'Oka et du Mont-Saint-Bruno. Le plan affecte une véritable démarche d'accessibilité. L'intention en est une de conservation, mais aussi de se servir des espaces naturels urbains comme de lieux de loisirs et de récréation. Les couronnes sont alors décrites comme des réserves pour le récréotourisme. L'idée est de relier les espaces verts autant pour établir des parcours cyclables ou piétonniers que d'assurer la connectivité des communautés végétales et animales. En parallèle, NatureAction Québec, en 2012, cartographie une vaste ceinture métropolitaine à protéger. Deux préoccupations majeures soutiennent un tel projet encore inachevé, l'accès à la nature, aux activités de plein air, à la forêt urbaine comme lieu de loisirs et, dans la foulée, la conservation d'ensembles forestiers représentatifs de la biodiversité urbaine. C'est dans ce contexte de projets de réseau et d'axes verts de connectivité urbaine qu'est mis de l'avant le projet de Sentier Oka, Mont-Saint-Hilaire, qui impose une vision de conservation et des usages des espaces verts à des fins de plein air, de loisirs et de mobilité, en déployant une diagonale verte traversant la région métropolitaine. Tous ces projets ont eu en commun d'identifier les bois représentatifs de l'écosystème naturel de la plaine du Saint-Laurent ou ce qui en reste à Laval, Saint-Amable, Verchères et Terrebonne. Considérés alors comme un grand ensemble, il s'agirait de les relier pour maintenir une image forte, celle de la métropole nature. Dans ce vaste projet de mise en réseau de la forêt métropolitaine, nombre de bois de qualité écologique et de bonne taille demeurent menacés, comme le bois des hirondelles que la municipalité de Saint-Bruno souhaite conserver en bordure du parc national, ce que le promoteur immobilier conteste devant les tribunaux. Ceci est pour rappeler que des bois urbains résiduels et des milieux humides demeurent des enjeux urbains et que les administrations publiques, plus particulièrement au niveau municipal, les ignorent ou paraissent impuissantes à en assurer la conservation. Il est certain que les moyens sont limités pour rivaliser avec les promoteurs immobiliers. Il reste aussi des espaces verts de plus petite taille, reliques de bois anciens ou recouverts d'une reprise végétale spontanée, encastrés dans le tissu urbain, que l'on nomme « friches », qui font l'objet à l'échelle locale de projets de conservation, comme le parc du Bois des Pères, situé à moins d'un kilomètre du parc Maisonneuve. D'une superficie de 6 hectares, il est l'un des rares milieux forestiers à avoir été épargné du développement résidentiel dans cette partie de l'île. Auparavant réserve foncière, le bois fut amputé pour créer un ensemble résidentiel empiétant même sur un milieu humide. Devenu un parc municipal, l'endroit est traversé de sentiers qui en fragilisent l'état. Quant aux nombreuses friches, elles apparaissent telles des confettis verts disséminés dans les milieux urbains. Elles sont emblématiques des luttes citoyennes pour le verdissement de villes et des usages locaux de la nature urbaine, incluant la promenade, le jardinage, les fêtes de quartier. La friche, une nature en pointillé sujette à débat. Des mouvements associatifs ont entrepris un travail d'appropriation d'espaces délaissés tels les friches, les lots vacants, les couloirs ferroviaires, etc. Ainsi, d'anciens sites industriels décrits comme des terrains vagues sont valorisés à des fins de pacification du milieu, de verdissement, de lutte aux îlots de chaleur, de soutien à la mobilité active. Toutefois, deux approches se trouvent mises en débat. D'un côté, les associations de quartiers valorisent l'appropriation de lieux de proximité y ouverts aux usages sociaux de la nature. De l'autre côté, les critères écosystémiques et la représentativité écologique des espaces naturels à préserver prévalent. L'interrogation porte ainsi sur la biodiversité des friches et de leur contribution au rétablissement des processus écologiques. Retenons que dans le jeu de la conception des réseaux verts, le statut de la friche reste en suspens parce que l'affectation prévue des lots, le droit de propriété, les différents projets de développement rendent difficile sa pérennisation. De nombreux exemples participent à ce mouvement de reconquête des friches et des parcelles boisées. Nous en retenons deux. Le Champ des possibles, dans le quartier du Mile End de Montréal, est un lieu emblématique de l'urbanisme tactique au paysage vernaculaire. Il occupe une faible superficie, avec un sol mince et contaminé au couvert végétal diversifié, composé largement de plantes herbacées non indigènes. L'association Les Amis du Champ des Possibles vise sa préservation et son appropriation par des riverains militants et résidents. Longeant une voie ferrée, le site est aussi le siège d'activités de toutes sortes. Ses défenseurs l'inscrivent dans le cadre d'une mise en réseau qui n'est pas sans susciter autant d'enthousiasme que de réserve de la part des autorités municipales. L'objectif est de maintenir la biodiversité végétale et animale, tout en impliquant les citoyens dans le verdissement du site par la plantation des plantes indigènes. Cette friche renferme plus de 185 espèces végétales, dont plus de la moitié sont des plantes introduites issues de la dissémination de graines. Dans l'est de Montréal, il y a bien eu la promesse de la ville de créer le grand parc nature du secteur, reliant les parcs et espaces verts du nord depuis le parc nature du ruisseau de Montigny à l'approche de la rivière des Prairies, traversant celui du bois d'Anjou agrandi et jusqu'au lot vert et boisé bordant la rue Notre-Dame près du fleuve. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, les mouvements « Résister et fleurir » et « Mobilisation 6600 Parc Nature MHM » entendent contrer le projet de Raymond Logistique et relier les différentes surfaces vertes et terrains vagues en un parc urbain accessible. Laissons-leur la parole. Au cœur de notre quartier se trouve un grand espace en friche composé de boisés, de plaines fleuries et de milieux humides où la vie végétale et animale foisonne. Les habitants et habitantes du quartier s'y baladent au quotidien et vont y chercher un peu de calme, s'éloignant du tumulte de la ville. Ce vaste terrain vague est pour elles et eux comme un refuge. Petits et grands, petites et grandes, y sont très attachés. Or, les boisés et les friches qui composent le terrain vague sont actuellement menacés par différents projets industriels. Des groupes citoyens militent pour la préservation de ces espaces et de leur usage libre et revendiquent la création d'un parc nature sur le site de l'Assomption Sud. La friche est finalement ce lieu de réappropriation collective du cadre de vie, une façon de s'opposer à l'oppression engagée d'un certain type d'aménagement. De l'idéal du parc romantique et pittoresque à la friche végétalisée se profilent différents régimes de conservation de la nature en ville. Au fil des décennies, on passe ainsi de principes de conservation fondés sur l'exceptionnalité, l'intégrité écologique et la protection des espèces rares et menacées, ce qui est très bien en soi, à ceux d'accessibilité ouverte, d'appropriation et de pratiques citoyennes, qu'il s'agisse de jardinage, de plantation, de rencontres ou de fêtes populaires. Gilles Gaston Sénécal est professeur honoraire à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, Urbanisation, culture et société. C'était « Le bois urbain du Grand Montréal, un espace changeant et ambigu », un texte de Gilles Gaston Sénécal paru à l'été 2023 dans le numéro 154 de la revue Cap au Diamant.